Donc l'évangile de Luc de Matthieu insiste sur des choses permanentes fondées dans l'Écriture. Jésus, fils de David, au chapitre 1, verset 1, et fils d'Abraham. Donc on retrouve dans la parole de l'ange qui s'adresse à Marie, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie. Pourquoi il dit ça? Tu descends de David et de toi va descendre Jésus, fils de David. Bon, maintenant ce qui se passe, c'est que dans cette idée-là de David, vous devez savoir qu'il y a un roi qui sera éternel, qui aura un royaume sans péché, un royaume à perpétuité. Ça a été prophétisé par le prophète Nathan et Gad à David. Et puis, on retrouve tout cela aussi dans d'autres textes, au psaume 89. Et dans un texte extrêmement important de Isaïe, au chapitre 7 et 9, alors je vous lis ici Matthieu, chapitre 1, verset 23, il fait référence à ce texte-là de Isaïe, 8 siècles avant, chapitre 1, verset 23, « Voici la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. » Donc Dieu, dans sa réalité éternelle, infinie, va visiter son peuple. Pourquoi? Parce que le peuple est sans Dieu. Comme aujourd'hui, le monde est sans Dieu. Joseph s'étant réveillé, fit et ordonna ce que je vous ai dit, etc. Mais, vous voyez, c'est extrêmement important de se reporter à ce qui est dit dans Isaïe. Et on voit qu'il sera appelé Père éternel, Dieu tout-puissant. Et il aura un empire, un royaume sans fin. Ça, c'est dans Isaïe, dans le même texte. Il faut avoir la curiosité de le lire et de s'instruire. Pourquoi? Parce que le descendant de David, c'est le futur roi de ce monde. Et quand on dit que Jésus va revenir, c'est en tant que roi. Vous voyez bien que dans le monde, de pire en pire, la pagaille augmente. Alors, il faut ce roi de paix, hein? Immanquablement. Bon, maintenant, ce qui est extrêmement important, c'est que ce roi, il n'est pas situé n'importe où. La famille, c'est de David et donc de Jésus, c'est s'ancre dans une ville qu'on appelle Bethléem. Ça, c'est au chapitre 2. Et pourquoi donc des mages viennent pour désigner cette ville comme la ville la plus importante? La ville la plus importante qui montre que le Sauveur, le Messie, le futur roi d'Israël et du monde, va naître là. Pourquoi? Mais parce que sans doute ils ont lu la Bible, ou en tout cas ils en ont entendu parler, ils viennent de très loin, d'Orient. Hein, en général, ces gens très cultivés dans l'astronomie et l'astrologie venaient de Babylone et de l'Afghanistan. Et il y avait beaucoup de Juifs par là, depuis la diaspora. Et parmi tous les enseignements que les Juifs ont apportés aux nations, il y a la prophétie de Michée au chapitre 5, verset 1. Et c'est celle-là que les collègues, la cour de Hérode va lire. Il y a à Bethléem une promesse faite par 8 siècles avant, sans que Isaïe et Michée soient concertés. Ils n'étaient pas dans la même zone. Ils étaient à 100 km l'un de l'autre. Est divisé par une frontière politique. Et ils ne se rencontraient pas au temple. Ceux du Nord ne venaient pas au temple. Donc Michée n'allait pas au temple, et Isaïe était au temple. Alors, j'ai visité ce petit village de Michée, sur une colline. Il y a encore des ruines. Alors, pratiquement, au chapitre 2, verset 5, à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète, et toi Bethléem, terre de Juda, tu ne serres pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui pètera Israël, mon peuple. C'est toujours la royauté. Que ça soit donné par Esaïe aux deux tribus du sud, que ce soit donné par, toujours Dieu, mais par Michée aux 10 tribus du nord, ça a été donné à tout Israël, qui serait leur roi. Écoutez bien, il n'a pas favorisé deux tribus par rapport aux 10 autres. Hein. Le roi sera pour tout le monde. Et effectivement, tous les Juifs qui reviennent maintenant en Israël, qui sont installés, et ceux encore qui rappliquent, et qui rappliqueront en plus grand nombre, pratiquement, il n'y a plus de distinction entre les 10 tribus du Nord et les 10 tribus du Sud. C'est fini. Quand on voit là-bas, on voit bien. C'est une histoire qui est clôturée. peut-être dans certains esprits mesquins, mais ce n'est pas la majorité des juifs, hein, sûrement pas. Je ne l'ai pas vu, je n'ai pas ressenti, il n'y a pas de signe visible de ça en tout cas. Peut-être, il y a toujours des gens butés dans la vie, hein, où qu'on soit, dans toutes les races, mais peut-être qu'il y en a qui sont encore butés là-dessus, mais ce n'est pas le cas, je pense, pour la majorité. Le Messie est venu pour tous, pour être le roi de tous. Hein. Quand les mages au chapitre 2 viennent, ils apportent trois présents importants. Donc au verset 11, ils offrirent leur trésor, ils offrirent en présent de l'or, hein, le signe de la richesse de la royauté, et puis ensuite de l'encens. Tous les sacrifices étaient accompagnés d'encens pour une odeur agréable à Dieu. Donc Jésus est le sacrifice qui sera agréable à Dieu. L'or, il sera le roi. Et la myrrhe, c'est quoi ? Eh bien, il sera dans la sépulture, il sera embaumé. C'est lui qui ensuite va ressusciter. Alors, continuons. Il y a évidemment une immense hostilité entre le monde et le royaume du Messie. Elle est symbolisée, elle est caractérisée par Hérode. Mais ce n'est pas le seul des rois, ce n'est pas le seul des assassins qui est contre la divinité de Christ et la royauté de Christ. Ce n'est qu'une image de ce qu'est, sera ce qu'est le monde. C'est avec cet ordre de massacrer les enfants à Bethléem qui vient de Hérode. Donc au chapitre 2, verset 17, « Alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par Jérémie le prophète, on a entendu des cris à Rama, des pleurs, des grandes lamentations. Rachel pleure ses enfants et n'a pas voulu être consolée parce qu'ils ne sont plus. » Rachel symbolise toute la descendance de Jacob, hein, c'est la maman. Donc, il ne s'agit pas seulement des enfants de Bethléem, c'est tout Rachel qui pleure. Ça veut dire que c'est tout Israël qui est l'objet d'une persécution. Il faut aller plus loin que parfois les mots et tout ce qu'on a lu et qu'on croit qu'on comprend. Passez du temps à méditer la parole, les amis. La TV vide et l'ordinateur vide la tête, la Bible le remplit. Ok ? Alors, c'est tous les enfants de Rachel qui vont être l'objet de sévices tels que Hérode l'a fait à Bethléem. C'est quand même un signe avertisseur très important, encore de ce qui s'annonce pour la région là-bas, hein, en Israël. Alors, bien sûr, Jésus revient à Nazareth, hein, et ça c'est la fin du chapitre 2. Au chapitre 3, dimanche passé, j'ai fait tout ça rapidement entre les images, les sketchs, les chants, etc. Tout ce qui avait été fait, qui était bien fait, par plusieurs de l'Église. Eh bien, il y a un appel à la repentance au chapitre 3. Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Ça veut dire changez de vie car le royaume des cieux est proche. Le Christ, le Messie, vient installer son royaume. Et c'est un participe présent et proche. Dans le texte, c'est « est venant ». Le processus d'enclenchement du règne de Christ est commencé. Et le processus de régner pour le Christ est commencé, dès qu'il arrive. Même si ça n'apparaît pas vraiment pour tout le monde. Bien sûr, puisque ce processus commence, un prophète doit passer devant Dieu, et c'est Jean-Baptiste. Chapitre 3. Verset 3, on voit que ici il est repris une parole, une prophétie de Ésaïe, au chapitre 40 ou 42. C'est ici la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Jean-Baptiste a devant lui un peuple stérile. C'est ça le désert. Et il faut qu'il nivelle tous ces obstacles qu'il y a dans les cœurs des hommes. Il est quand même arrivé à un sacré résultat, c'est que sur les 12 apôtres de Jésus, 11 ont été formés par lui. Ils sont quand même restés les fondateurs de l'Église. Il a quand même fait son boulot comme il faut. Il a préparé l'intelligence des apôtres, même s'ils ont été défaillants après, même s'ils ont craqué, et peut-être c'était salutaire, pour ne pas faire commencer l'Église sur l'orgueil, mais sur l'humilité, hein, et l'humiliation, et aussi sur la puissance de Christ. Il fallait que des disciples soit préparé. Et le douzième, venant de la Judée, n'a pas été préparé. Et on a vu, il a claqué, comme on dit, hein, il a trahi. Si vous ne voulez pas trahir le Seigneur, si vous ne voulez pas lâcher un cours de route, il faut vous fonder dans les Écritures. Tout chrétien qui ne se nourrit pas dans la parole lâchera le Seigneur avant qu'il arrive. Même assis dans une église évangélique. Pas plus que dans une église catholique ou autre. Il n'y a pas d'avantage à être dans une église. C'est dans la parole de Dieu que l'on trouve les assises pour une vraie vie chrétienne. Et le Jean-Baptiste en question, c'est l'image de tous ceux qui enseignent la parole de Dieu plus tard pour toutes les nations et qui vont fonder la vraie foi dans la parole de Dieu, dans les prophéties, dans la parole. C'est pour ça qu'il faut des gens pour servir Dieu. Il faut absolument que tous les chrétiens le servent, mais il faut aussi des gens qui passent du temps à faire cela. Pourquoi ? Parce qu'il faut fonder les gens dedans. Courez toujours quand vous voyez une maison, un terrain. Il va falloir faire venir quand même le géomètre, mettre des niveaux, etc., mettre des ficelles, des relevés, et puis après il faudra prendre la machine, terrasser, ou dans le temps on fait ça à la main. La maison de Vincent et de Véronique, on l'a fait à la main, pour faire des économies. On est arrivé à faire la maison beaucoup moins chère, on l'a fait à la main, et zoom. C'était pas globe, l'oncle Jean et moi on était assez costauds. Pour faire ça, et pratiquement on étendait la terre dans le jardin, eh bien il faut faire les fondations, donc il faut creuser, il faut établir l'endroit où on va poser des bases qui ne vont pas bouger. Eh bien, c'est un petit peu ce qui s'est passé avec Jean-Baptiste. Donc c'est lui qui nivelle, qui établit. Donc l'Ancien Testament établit par les prophéties les fondations de la foi chrétienne. Or, Paul l'a dit, ne méprisez pas la prophétie, n'éteignez pas l'esprit, dans Thessaloniciens. Eh bien, en 218, Origène dit que les prophéties n'ont pas de contenu historique, elles sont simplement symboliques, allégoriques. On descend en flèche tout l'Ancien Testament et les fondations du Nouveau Testament. Et vous qui êtes né dans l'Église catholique, comme moi, vous avez une foutue manie de négliger l'Ancien Testament. Parce que vous aurez toujours en vous un refus de vous intéresser à l'Ancien Testament. On vous a baigné dans le refus de l'Ancien Testament. Et si vous ne vous surveillez pas, si vous n'allez pas régulièrement vous instruire dans toute la Bible entièrement, vous ne pouvez pas dire que votre vie chrétienne sera solide. Évitez ce piège. Origène, monsieur Origène a semé le poison. Et il s'appelle un père de l'Église. Je l'ai étudié au séminaire. Toute la dogmatique de l'ecclésiologie, de l'Église catholique, je l'ai étudiée en détail. C'est encore dans ma tête tout ça, parce que je me rappelle que c'est des points terribles. Parce que c'est pour ça qu'il y a des églises partout. C'est pour ça que ça continue. Que quand une fois que le poison est semé, c'est un petit peu comme la théorie de l'évolution avec Darwin. Même qu'il est mort. Les derniers mois qu'il est mort, il a fait une confession de 35 pages pour dire qu'il n'y croyait pas, qu'il l'avait fait exprès pour détruire la Bible. Parce que monsieur avait fait des études de pasteur. C'est comme le fondateur des Illuminati, la secte des Illuminati qui mène les hommes politiques actuellement. C'est un jésuite, c'est un prêtre. Les mieux placés pour donner le poison, c'est ceux qui ont parfois étudié la Bible et qui la dévient. Vous voyez ? Et Satan l'a fait dans le désert. Satan l'a fait dans le désert et est venu solliciter Jésus avec des paroles de la Bible pour le détourner. Au chapitre 4. Bon, au chapitre 3, il y a bien sûr une chose qui est fondamentale dans ce chapitre, c'est que Jean-Baptiste va dire à ses disciples, au verset 11, « Il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. » De feu, eh bien, quand on voit dans Jérémie chapitre 23, on voit que Jérémie dit « Ma parole n'est-elle pas comme le feu qui vous purifie, comme le marteau qui brise le roc ?» Donc, la parole de Dieu est fait une action comme le feu. Pour consumer toutes les scories venues des mauvais enseignements, des mauvaises idées venues du monde et du péché. Il faut laisser ce qui est vrai et ce qui est pur. Donc, la parole est comme un feu qui ne doit pas s'éteindre dans notre cœur, et le Saint-Esprit est là pour venir habiter. Toujours à cette époque-ci, c'est le moment des illusions, Noël, Nouvel An. On se dope avec, en achetant au magasin, en mangeant, en buvant. Ou alors, on se remet en question. Au moment de Noël, Nouvel An. On se dit, mais purée, ce monde, il n'est pas encore mieux cette année-ci que l'année d'avant. C'est encore pire. Et moi ? En priant, je me dis, je ne vais pas faire procès des autres, je vais faire le mien. Je dis, Seigneur, je suis censé être le temple de ton Saint-Esprit. Eh bien, je trouve que cette année-ci, c'est assez lamentable. C'est même très lamentable à certaines périodes. Seigneur, je te demande pardon. Je suis un peu comme le temple qui a été brûlé par Nebuchadnezzar, et puis l'autre, abîmé par Antiochus et Épiphane. Et il faut toujours reconstruire. Seigneur, aide-moi à reconstruire ma vie chrétienne en 2018. Ce foutu temple, moi qui suis un homme, je passe toujours du temps à le détruire. Seigneur, c'est toi qui le construis. Aide-moi à construire ton temple dans ma vie. Et voilà, la foi chrétienne ne vient pas de nos bonnes volontés et nos bons désirs. Elle vient d'une action de Dieu en nous. Et ça, c'est clairement ce que Jésus a décidé de venir faire sur la terre. L'œuvre de la grâce en nous. Et vous voyez que tout cela, bien sûr, est de première importance. Au chapitre 3, verset 17, « Celui-ci, mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, c'est la parole qui est dite là au baptême et qui est dite au moment de la transfiguration, sur le mont Hermon. Hein. » Et cette parole, « Mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection », avait été dite par Esaïe, au chapitre 42, verset 1, 8 siècles avant. Donc, l'évangile de Matthieu, comme tous les évangiles, ne sont pas construits dans un bric-à-brac comme les journaux d'aujourd'hui. C'est un livre de Dieu dans lequel on se base sur les prophéties, sur la parole de Dieu éternelle. Au chapitre 4, eh bien, Jésus va être sollicité dans le désert par l'imposteur numéro 1, qui connaît la Bible, qui connaît le bien et qui veut le mal. Vous m'avez entendu? Il connaît la Bible, il connaît le bien et il veut le mal. Ça, c'est Satan. Donc il peut prendre toutes les apparences pour nous mener à notre perte. Méfiez-vous, il fait souvent un peu de bien pour faire beaucoup de mal. Et c'est ce qu'il va essayer avec Jésus, lui faire les miracles économiques de ce monde, comme on demande aux élections, à tous les présidents, à tous les rois, les miracles économiques, de l'emploi pour tout le monde, du pain pour tout le monde, des bonnes pensions, etc. Et quand on regarde la fin de l'année, ou la fin du mandat, parce que ça. Alors, Satan veut proposer un mandat politico-économique à Jésus, mais surtout ne va pas à la croix. Hein? Viens pas clouer le péché, hein? Viens pas payer la dette des hommes. Hein? Moi, je ne veux pas aller en enfer tout seul. Hein? Il faut qu'ils y aillent tous avec moi. Hein? Et toi, tu es venu pour aller. Viens faire un mandat politico-économique, c'est très bien, les hommes attendent ça. Moi aussi, dit Satan. Moi aussi. Deuxième chose, c'est le mandat de quoi? Ben, du Rambo, du Schwarzenegger et tous les autres, hein, des grands champions de sport qui gagnent, allez, un footballeur dernièrement dans la Gazette, 300 000 euros par semaine. Hein? C'est très bien ça, hein? Pendant que les autres crèvent de faim, et ou triment pour quatre fois rien. Eh bien, il y en a combien comme ça? Combien comme ça? Et on les magnifie. Jouez, téléphonez, avant tête, vous avez 3 minutes de réponse, vous gagnerez 20 000 euros. Et tous les autres qui n'ont rien alors. Vous savez que Dieu interdit d'en rentrer dans un jeu de hasard. Pourquoi? C'est clairement interdit pour un enfant de Dieu. Parce qu'il cautionne le jeu de Satan. Il tient des millions de gens la langue tendue. Il n'y en aura qu'un qui aura 20 000 euros. Il n'y en a qu'un qui aura 1 million d'euros à la loterie nationale. Et tous les autres sont dans le caca. C'est le principe de Satan. Je les attire, je les séduis, je les enfonce. Encore pire qu'avant. Vous croyez que c'est les riches qui vont jouer au jeu du hasard, à la loterie nationale? Mes amis, moi j'ai regardé ça, je connais des gens ici à Hête, au village à côté. Ils ont vendu leur maison parce qu'ils allaient jouer régulièrement à la loterie. Ils sont séparés. Il y en a qui se sont suicidés. C'est dans le peuple, de plein de gens qui doivent gratter tous les jours pour travailler. Et si naturellement ils ont pris l'habitude au terrain de football ou dans les mouvements de jeunesse ou dans les clubs de jeunes de boire et de guindailler, qu'est-ce qui se passe? Quand ils ont un souci, ils guindaillent et puis ça tourne mal. Ils finissent par s'enfouir la tête dans le sable comme les autruches. Ils ont pris des mauvaises manies et tout le monde rigolait, foif, c'est bien. Mais en attendant, ils n'ont pas appris à se battre contre la difficulté. Ils n'ont pas appris à relever le défi. Ils se découragent, ils s'enfoncent. Et pratiquement, on va leur proposer des miracles, d'être le champion. Je prends un ticket, je suis le champion. J'ai connu à Signol quelqu'un qui avait gagné comme ça 10 millions de francs belges, ça veut dire 250 000 euros. Et bien pratiquement, toute sa famille, ils ont commencé à vivre comme des fous. 3 ans après, il n'y avait plus rien. Ils étaient séparés. C'était le caca total. Voilà le cadeau du diable. Le Seigneur ne nous demande pas de tomber dans les séductions. Il nous demande de marcher avec confiance. Le combat est dur, mais de nous confier à lui, de lui demander ses bénédictions, et pas celles du diable. Pas celles du diable. Il n'y en a pas du côté du diable, il y a des intranigos. Donc voilà, Jésus a été tenté. La troisième, c'était bien sûr se mettre à ses genoux pour recevoir toutes les gloires, toutes les richesses, toutes les puissances. Les amis, tout ça, Jésus a refusé. Pourquoi est-ce que Ève et Adam ont accepté alors? Parce qu'ils n'étaient jamais contents de leur situation à eux. Adam et Ève étaient très bien avec Dieu, mais ils n'étaient pas contents de ce qu'ils avaient reçu de Dieu. Il fallait encore plus. Je n'ai jamais compris ça réellement dans ma vie avant l'âge de 50 ans. Mais je connaissais un couple ici, dans un village à 6-7 km à Signol. La femme était jolie, monsieur était joli, il travaillait, etc. Il s'entendait bien. Et tout d'un coup, monsieur ne regarde plus sa femme. Monsieur se détourne d'elle, puis il va voir des prostituées. Et cette femme pleurait, s'est confiée, pleurait. Je ne vois pas ce qu'elles ont plus que moi. En plus, il va tout dépenser l'argent et tout. Pourquoi? Parce qu'il y a un piège chez l'être humain. C'est toujours comme la vache, où il y a une clôture avec des fils, c'est de passer la tête entre les fils, parce que l'herbe est toujours meilleure dans le pré d'à côté. Or, elle n'est pas meilleure, c'est la même herbe. La pire des séductions, c'est de se croire que ce que Dieu nous a donné n'est pas suffisant. La pire des séductions, c'est de croire que ce qu'on vit, on ne peut pas s'en contenter. Il faut savoir se contenter de ce qu'on est, de ce qu'on a, et surtout se tourner vers le Seigneur. Paul dit dans l'Épître à Timothée que le contentement et la piété sont source d'un grand gain. De quel grand gain?
Le bonheur.
Le bonheur, oui, la simplicité de cœur, et on trouve tôt ou tard des gens comme nous qui vivent simplement, et on vit entre amis, simplement. On n'a pas besoin d'être copains de tous ceux qui rêvent à plus, qui vont tous se casser le nez. C'est la mauvaise route. Jésus a dit, le chemin du salut est étroit, sinueux, la porte est basse pour rentrer, mais l'arche est la perdition, l'avenue, l'autoroute qui mène à la perte, la perdition. L'arche est le chemin de la perdition. Eh bien, regardez, Jésus a refusé tout ça, Adam et Ève ont accepté. Rentrez dans les magasins, Noël, Nouvel An, rentrez dans tous les commerces. On a étudié votre psychologie pour, même si vous n'avez besoin de rien, pour sortir avec quelque chose.
Bien sûr.
Même si vous n'avez besoin de rien, pour sortir avec quelque chose. Et si vous ne rentrez pas dans le magasin, on va aller sur votre ordinateur. On va aller sur votre télévision. Et puis, paf, vous l'avez là. Et ça revient des centaines de fois. Et puis les affiches. Vous êtes arrêté au feu rouge, prends la grande affiche. Vous allez à l'autre feu rouge, vous êtes... Hein, il y en a partout. On vous tape dans le nez ce que vous n'avez pas demandé. C'est ça, c'est Satan. Ça. C'est Satan qui veut vous donner un sentiment de frustration, de mécontentement, d'insatisfaction. Satan est arrivé à mettre ça à Ève et puis à Adam. Alors qu'ils avaient tout, les amis. Aujourd'hui, celui qui a Jésus dans sa vie, il a tout en Christ. Il a tout en Christ. Je vous dis que franchement, Noël, si c'est ça Noël pour vous, vous allez passer une année avec une paix intérieure, pas avec la tranquillité, parce que le monde est fou. Mais, et puis il y a notre péché, il y a le combat. Mais une paix intérieure, une victoire intérieure, capable de vous donner de la fermeté et de devenir inébranlable. Inébranlable. Au chapitre 5, vous avez évidemment tout le cadeau que Dieu donne à ceux qui se sont ancrés en Christ. Heureux, 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 heureux. Jusqu'au verset 12. Réjouissez-vous. Le bonheur, comme dit Paul, le contentement et la piété sont source d'un grand gain. Le grand gain, comme vient de dire Véronique, c'est le bonheur. Le bonheur ne se trouve pas dans un magasin, ni dans une voiture, ni dans un super nana, etc. Ni dans un super beau mec. Hein? Ni dans le string, ni dans le soutien-gorge. Attention les amis, attention de se faire avoir et de dévoyer, même dans le domaine de la sexualité, de faire perdre l'affection et la tendresse envers quelqu'un et de plus s'intéresser qu'à l'adrénaline, aux idées de cingler. Vous connaissez Moustaki qui a fait une belle chanson? Ma femme, les plus jeunes, là, comment que c'est? Moustaki. Qui est dans mon lit?
Non, non, non.
La femme qui est dans mon lit?
Elle est Annette, vas-y.
Vas-y, Annette, elle est connue.
Elle est. Elle n'a plus 20 ans depuis longtemps.
Depuis longtemps.
Eh bien, les amis, si vous pouvez regarder votre mari qui est un vieux schnock, à 70, 80 ans, voire même avant, déjà, un vieux schnock, qui a attrapé de la bidoche, qui a attrapé ci, qui a attrapé ça, avec le même amour qu'au début, c'est très bien. Vous avez passé l'examen de la vie, le vrai examen. Si vous regardez votre femme, ah bien sûr vous voudriez bien, parce que on tire la langue. Vous voudriez bien que ça soit une belle nana jusqu'à 200 ans. Hein, 200 ans. Et puis qu'elle meure, sacrée nana, quoi. Bon, on est fiers de trimballer une nana, on est fiers de ci, de ça. Hein, tout le reste, je passe le détail. Mais en attendant, c'est pas vrai, ça n'ira pas comme ça. Elle va, aïe, ouille. Elle a mal passé, elle a eu des enfants, elle a attrapé du bidon, elle ne sait plus le perdre, etc. Et madame a son caractère, et puis madame attrape des rides, et puis il y a beaucoup de choses qui tombent.
Hein.
Alors pratiquement ce qui se passe, les amis, celui qui a gardé de l'amour, celui qui a dans son cœur de l'amour pour sa femme, celui qui a de, le vrai amour qui était au début, il augmente avec le temps. L'amour factice et mensonger avec le temps et parfois très vite. Pas d'abord. Il y a la vie ou la mort dans l'amour. Alors, l'amour, c'est chemin de la vie ou chemin de la mort?
Avec Jésus, la vie.
Avec le Seigneur Jésus, effectivement, ici, regardez ce texte, chapitre 5, heureux les pauvres en esprit. Hein, c'est en grec, j'ai passé une fois une journée sur ce verset-là, parce que je voulais, mais vraiment, j'ai dit, c'est pas possible. J'en ai entendu toutes les sortes dans l'église catholique, au séminaire, partout. J'ai dit des âneries aussi, et il faudrait quand même que je fasse gaffe. Alors, c'est pauvre en esprit, pneumatikos. C'est-à-dire, si je suis réfugié dans l'Esprit Saint, c'est-à-dire, j'ai compris que tout le reste, c'est des sornettes, hein, c'est des folies, tout ce qui vient du péché, je me réfugie dans le Saint-Esprit. Eh bien, je me fais pauvre de tout ce que je voudrais, tout ce que j'ai voulu dans le monde, tout ce qu'on m'a dit. J'écoute ce que Dieu me donne, ce que Dieu est pour moi. Et qu'est-ce qu'il va me donner, lui? Eh bien, même si tu es affligé parce que tu as un enfant qui n'obéit pas, même si tu es affligé parce que ton mari n'a pas été gentil avec toi aujourd'hui, même si tu es affligé parce qu'il n'y a pas de sous dans le porte-monnaie, même affligé parce que ta bagnole dans un carrefour, il y en a un qui t'a rentré dedans. Et tu ne sais pas comment tu vas la réparer. Affligé? Ben oui, j'ai des pierres au foie. On m'opère, et puis ça se complique, ça s'infecte. Il faut que je retourne 5 fois à l'hôpital. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Il faut pouvoir trouver la consolation auprès du Seigneur. Le Dieu est vivant. Le Dieu de Jésus est vivant. Il vient dans mon cœur, dans ma vie. Je me confie en lui. Je n'oublierai jamais. Elle est à la chorale catholique, à la messe. Et qui venait à l'étude biblique, à long jour, et qui avait déjà eu un cancer du sein, mais le Seigneur avait voulu, parce qu'elle avait des petits enfants à garder, son fils et sa belle-fille frappaient les enfants. Ils avaient les os brisés partout. Et on ne le voyait pas, il n'y avait pas de bleu, parce qu'ils mettaient des essuie-éponges mouillés, et ils cognaient, et les enfants avaient les os cassés en dessous. Donc pratiquement, j'étais allé avec elle pour les rechercher, et elle m'a dit, Jean, je ne vois pas comment on va s'en sortir avec les enfants. Vous savez, j'ai le cancer, mon sein est parti déjà. Il en est où? Je dis, il est comment? Parce que j'ai déjà vu des seins avec le cancer et tout. Ma marraine, j'ai vu ça. Et puis, ben, il en a un test. Ah oui, je dis, c'est la finale. Oui, Jean, je ne sais pas comment on va faire avec les enfants. Alors j'ai dit, écoute, avant d'arriver à Charleroi, on prie dans l'auto. On a prié. Seigneur Jésus, Père chéri, on a prié, le Seigneur Jésus, on a prié notre Père des cieux. Demandez que, Seigneur, si c'est dans ta volonté, que tu donnes encore 10 à 15 ans de vie pour pouvoir garder tes petits-enfants, dont personne ne s'occupera si elle n'est pas là. On a prié, ça a pris 3 minutes. 10 jours après, elle me téléphone, mon sein est là, comme l'autre. Et elle a gardé ses enfants, ses petits-enfants. Dieu n'entend-il pas? Dieu est-il sourd? Non, 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 moi j'ai vu souvent qu'il les entendait. Mais il entend quand on est vrai. Il entend quand on est vrai. Si on joue double jeu, il fait ça. Alors, c'est clair que plusieurs années après, 10, 12 ans après, la plaque qui rattrape le cancer. Du foie, mais jaune. Jaune de jaune, hein. Je ne sais pas si vous avez du jaune ici dans la pièce, mais en tout cas, super jaune. Elle était dans le lit, et je m'approche d'elle, la famille était là. Et moi, naturellement, c'est provoquant pour les autres. Je lui dis, elle n'en avait plus que pour quelques heures. Je lui dis, ça va? Il y en a qui doivent, ça dirait, il est marteau le mec. Hein. Mais moi, je connaissais bien. Pas comme eux, qui de leur famille, ils ne connaissent que la carcasse. Elle me dit, elle me répond, je me penchais. Oui, je parle avec Jésus. Voilà, heureux les affligés. Je parle avec Jésus. Retenez bien ça, hein. Il n'y a pas 36 solutions. Ou vous parlez avec lui, ou vous sombrez dans le désespoir et dans tout le chaos. De tout le chaos et des sentiments qui provoquent encore en plus des maladies, des autres ennuis, des mauvais caractères, des mauvaises réactions, etc. Si vous vous concentrez sur la personne du Seigneur, avec foi et confiance, vous allez voir une vie autrement, une vie toute simple, toute rayonnante. Et c'est pas dit que tout s'arrange. J'ai pas promis ça. Je suis pas marchand de l'évangile du plein.
De la prospérité.
L'évangile de la prospérité. Non, merci. Ça, c'était les tentations de Jésus, ça. Mets-toi à mes genoux, je te donnerai l'évangile de la prospérité. Alors, heureux les hommes de cœur. Ça revient à la pauvreté qu'on voit dans le verset 3, « Heureux les pauvres en esprit ». Et vous avez toute une série de choses, comme ceux qui sont miséricordieux, qui pardonnent, ceux qui ont cœur pur, qui procurent la paix, ceux qui sont persécutés. Et heureux quand on vous persécutera à cause de moi. Ça, c'est plus dur, ça, au verset 11. Je veux bien être tout, hein, jusqu'au verset 9, être paisible, être bon, avoir un cœur pur. Mais alors, faire la bagarre pour le Seigneur Jésus, ouvrir mon bec quand il... Non, je veux la paix, moi, je suis un artisan de paix. Ah non, c'est pas tout à fait ça. À un moment donné, il faut pouvoir dire à quelqu'un, tu te trompes de route. Il est temps que tu changes. Ce monsieur pour qui elle l'a parlé, et tout à l'heure, elle l'a prié, il avait peut-être 35 ans ou 38 ans, l'âge de notre ami Michael. Quand il est venu ici, moi j'étais omnubilé par le travail et tout le bazar, et puis aussi accueillir des gens, c'était gentiment tout ce qu'on vous voulait, comme on pense quand on est chrétien de bonne foi, catholique. Eh bien pratiquement, c'est quand même lui avec son copain qui sont venus, qui m'ont dit, vous les perdrez tous. Vous croyez que les garderez tous, vous les perdrez tous. Chac. Ce n'est pas parce que vous leur faites du bien qu'ils vous aimeront. Et puis, il a dit des autres choses du même genre. D'abord le Seigneur Jésus. Et voilà, il vient de décéder. Si ce n'était pas donné la peine de venir à la porte, avec son ami. Au moment où on est lancé comme un bolide, on court là, dans la vie du monde. Qu'est-ce qui serait passé?
À cette époque-là, tu l'as pris pour un dingue.
Ben, c'est-à-dire que quand je les ai quittés sur le trottoir là-bas, là-bas tout près du panneau, j'ai dit, c'est quels emmerdeurs. je m'excuse. Je m'excuse. Je m'excuse, les amis. Au chapitre 5, verset 11, on est dans l'évangile, on est au jour de culte de Noël. Si vous avez peur de déplaire aux autres, vous déplairez à Jésus. Parce que Jésus, à un moment donné, il veut vous faire desserrer les dents. Il faut dire quelque chose. Purée, l'autre va en enfer, tu le laisses. Il est dans sa connerie jusqu'au cou, il ne la voit pas, et tu ne lui montres pas. Donc, l'évangile. Oui, les cœurs purs, les miséricordieux, tout ça on prend bien, c'est gentil, ça a l'air comme du velours, c'est pas vrai. La deuxième chose, c'est que quand il faut prendre la responsabilité de la parole pour qu'un autre échappe au péché, c'est aussi une source de bonheur. C'est aussi une source de bonheur. Vous savez, cet homme-là qui vient de mourir, il était depuis 9 mois à la maison de retraite à Rouvroy.
Pas 9 mois.
7 mois. 7 mois, oui, peu importe. C'était pas encore la grossesse, alors. Pratiquement, ce qui se passe, c'est que on visite, hein, madame visite une dame, moi je l'ai visité avant, un monsieur, bien, elle dit, pour elle, c'était une secte, quoi. Parce qu'il parlait Jésus à tout le monde, il parlait, hein, il se promenait, il était pas bien. Voilà. Donc il parlait de Jésus, donc il dérangeait les gens.
Dans le home.
Et il n'est pas comme les autres, c'est une secte. Alors, qu'est-ce qu'il a fait?
Ils avaient fait passer le message, ne vous laissez pas embrigader, c'est une secte.
Alors
j'ai dit à Roland, je fais partie de la même secte.
Alors, notre Véronique a dit, dame-là qu'on visite depuis des années, qui n'a encore rien compris, il faut rentrer dans le chou pour finir, elle a dit, nous sommes dans la même secte. Les chrétiens, au début du christianisme, étaient considérés comme une secte. Et bien, de nouveau, ça recommence. Si vous voulez être comme tout le monde, vous ne pouvez pas être avec le Seigneur. Parce qu'à un moment donné, vous devez dire aux autres que Jésus est venu mourir pour leur péché, est venu sur la terre pour les sauver. Et que on n'a pas le même Dieu que dans l'islam ou chez les bouddhas, etc. On n'a pas le même Dieu, on n'a pas la même parole. Même si on ne cherche pas à bagarre, on a logé ici des gens de toutes sortes de religions, des orthodoxes, hein. On a eu 2 juifs, on a eu des gens vraiment dans le péché, on a eu des musulmans, on ne les a jamais persécutés, on n'a jamais fait de mal. Ils ont entendu l'évangile. Verset 12, réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. C'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Sur quoi se fonde l'évangile avec Jésus? Prenez le chemin des prophètes et n'en sortez pas. C'est ça qui est clairement mis. Je tiens aujourd'hui à Noël le dire, prenez le chemin des prophètes et n'en sortez pas. Si vous en sortez, vous êtes hors de la parole. Un peu plus loin, chapitre 5, verset 18. « Je vous dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de ma loi, un seul iota, donc un point, ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. » Donc la sainteté sera sur la terre. La sainteté et la vérité seront sur la terre. Que l'homme veuille ou ne veuille pas, ça arrivera. Ça, c'est la finale, la touche finale de l'évangile. C'est la victoire de la vérité et de la sainteté. Noël, c'est pas pour les faire des cadeaux. C'est pas pour faire ci, faire ça. C'est pour la victoire de la vérité et de la sainteté. Parce que l'un et l'autre sont liés, hein, vérité et sainteté. Il faut accepter la vérité pour entrer dans le cadeau de la sainteté. Alors, pratiquement ici, il n'y aura rien qui sera supprimé. Donc, toutes les règles, les 10 commandements de Moïse, que Dieu a donné à Moïse, toutes les règles de sainteté qu'on voit dans Lévitique, nous sont aussi adressées. Il y a juste les ordonnances rituelles qui sont tombées à terre, qui sont laissées de côté. Mais il y a des règles de sainteté dans Lévitique. Il faut lire. Moi, pendant des années, et ça c'est dû à l'atavisme catholique, pendant des années, je ne supportais pas de lire le livre de Lévitique, bien que déjà devenu évangélique. Ça, c'est les racines perfides de tout ce qu'on a reçu avant. Et pratiquement, j'ai quand même lu dans Lévitique, c'est « Soyez saints comme je suis saint ». Aimez votre prochain comme vous-même. Mmh. Et il y a plein de textes dans le Lévitique où c'est des appels radicaux. Soyez saints quand je suis saint. D'ailleurs, Pierre le reprend dans son épître. Donc, il n'y a pas à mettre un morceau de l'Ancien Testament de côté. Si je n'arrive pas à le comprendre, Seigneur, aide-moi. Oui, d'accord. Dans 20 ans, tu comprendras ce texte-là. Mmh. Relis-le encore pendant 20 ans. Seigneur, ce texte-là, je ne le comprends pas. Oui, demain, tu le comprendras. Oui. Eh bien, ça, c'est comme l'instituteur, l'institutrice à l'école. Attends, mon petit père. On a un programme, on va le suivre. Et tu arriveras à faire tes calculs. Tu arriveras à faire ta conjugaison. Mais tu n'arriveras pas à tout en une minute. C'est moi qui t'enseigne, c'est pas toi. Et c'est ça avec Jésus. C'est qu'ici, il dit, au chapitre 5, je vous enseigne ma loi, je vous enseigne. Où la trouver? Regardez à Jésus, écoutez-le. Elle est vivante, elle est parfaite en lui. Donc, il n'y a pas rien à supprimer de la loi. Elle est en Jésus. Ok? Donc, si vous voyez que l'évangile vous dérange, ne vous laissez pas abattre, ne vous laissez pas combattre. Arrière Satan, Jésus me suffit. C'est le Fils de Dieu, il est le bien-aimé de Dieu, il a toutes les paroles de la vie, de la sainteté pour moi. Arrière Satan. Et tout ce que j'ai reçu du passé, où Satan a pu me convaincre du contraire, arrière, au nom de Jésus, arrière. Alors maintenant, vous savez que je vous ai posé la question, y a-t-il un texte que vous aimez bien, du chapitre 5 à 7? Je vous écoute.
Matthieu 6.
Matthieu 6.
Versets 5 et 6.
Versets 5 et 6.
Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le lieu secret te le rendra.
Je peux vous donner un petit exemple? Un tout petit.
Oui.
Ben, il y a, l'année dernière, j'étais à genoux dans ma chambre, j'étais découragée. Je me ferais vraiment découragée parce que...
Oh, ça arrive, hein?
Hein?
Ça arrive.
Oh Seigneur,
regarde
notre église. Bon, notre église, c'est un tiers la famille Bayeux, deux tiers des autres. Quoique, Seigneur, merci déjà pour ces deux tiers, parce que je les aime tous beaucoup. Mais vraiment, Seigneur, tu vois qu'on devient vieux. Et tu vois, dans notre village, on a déposé des évangiles dans les boîtes, on a mis des traités. Il n'y a personne dans notre village, Seigneur. Tu ne vas quand même pas me dire, Seigneur, que dans la province de Luxembourg et dans l'Ardenne, tout proche, il n'y a pas quelqu'un qui serait quand même intéressé de te connaître. Comme ça, à genoux, à côté de mon lit, dans la chambre. Eh bien voilà, Seigneur, je t'ai dit tout. Tu connais mon cœur. Voilà, je te dis tout. Pas après,
pas 6 mois,
ou quelques mois après, ils sont arrivés, la famille là, ils sont arrivés, on était en train de travailler devant la porte, ils sont venus demander un service, et puis ils ont demandé à ce qu'on se voit, qu'on se connaisse, on s'est présenté, et la semaine suivante, Jeannot allait faire une étude biblique chez eux. Et ils sont d'Ardenne, ils sont d'Ardenne.
Voilà, on va continuer.
Est-ce que Jésus n'entend pas quand on se met à genoux dans sa chambre et qu'on lui dit des choses qui débordent de...
Un autre texte maintenant. Quelqu'un d'autre, un autre texte? Vous voyez un exemple, hein?
Chapitre 6, verset 33.
Chapitre 6, verset 33.
Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus.
Moi, c'est chapitre 5, verset 37. Que votre parole soit oui, oui. Non, non, ce qu'on y ajoute vient du malin. Eh bien ça, je trouve que c'est vraiment la base de la sagesse chrétienne dans tous les choix de nos vies. Si on n'a pas vraiment la paix dans le cœur, dans la prière, pour une décision à prendre, eh bien il vaut mieux rester tranquille. Moi je l'ai expérimenté, à chaque fois que j'ai pris des décisions, en sachant dans mon cœur que c'était pas vraiment ce que Dieu voulait, en écoutant juste des raisonnements humains, des peurs, des scrupules
Des intérêts.
Des intérêts, eh bien, ça n'a pas fonctionné. Je trouve que c'est vraiment la base de la sagesse. Mmh. Que ce soit oui, que ce soit non, pas entre les deux. Si c'est entre les deux, c'est que c'est non.
Mmh. Quelqu'un d'autre ?
Chapitre 7, verset 7.
Chapitre 7, verset 7.
Oui. Encouragement à la prière. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe.
Merci. Qui d'autre? Si j'ai choisi de vous inviter à trouver dans chapitre 5, 6 et 7, c'est parce que c'est des paroles d'enseignement radical. Pour finir, on se rend compte, en cherchant humainement à les accomplir, qu'on n'y arrivera pas. Et c'est pour ça que ça fait un tout avec la parole de Jean-Baptiste quand il dit « Il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu ». Il faut se laisser purifier par la parole et habiter du Saint-Esprit pour pouvoir accomplir les paroles 5, 6 et 7 de Matthieu. C'est pour ça que ça ne vient pas avant, ça vient après. C'est le changement qui est présupposé à la vraie accomplissement de l'Évangile en nous, c'est la régénération, c'est le renouvellement par le Saint-Esprit. Il faut être changé par Dieu, mais il faut y aller aussi, il faut l'accepter. On peut se refuser à être changé par le Saint-Esprit. Oui, et donc l'accomplissement des paroles de chapitre 5, 6 et 7, c'est vraiment la bonne nouvelle, telle qu'à Noël, les anges le disaient. Fait aux hommes de bonne volonté. De bonne volonté, ça veut dire qu'il faut accéder, il faut se soumettre à l'Esprit Saint et à la parole. Qui d'autre ?
Matthieu 5, 38.
5, 38.
Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil, dent pour dent. Eh bien, moi, je vous dis, ne résistez pas à celui qui vous veut du mal. Au contraire, si quelqu'un te gifle sur la joue droite, tends-lui aussi l'autre. Et de là, je passe au verset 43. Vous avez appris qu'il a été dit « Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi ». Eh bien, moi, je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. Ainsi, vous vous comporterez vraiment comme des enfants de votre Père céleste, car lui, il fait luire son soleil sur les méchants, aussi bien que sur les bons, et il accorde sa pluie aux justes, comme aux injustes. Là, c'est le centre du christianisme. C'est le centre du christianisme. Il n'y a pas de légitimation de la haine, de la violence,
de la malédiction,
du meurtre, du terrorisme, de tout ce qu'on veut. Ça, c'est le centre.
Si quelqu'un nous a fait souffrir, priez pour lui.
C'est-à-dire que c'est le centre. Le centre des Saint-Esprit, c'est la pointe qui culmine au-dessus de la montagne. C'est l'œuvre du Saint-Esprit culmine là-dedans. Hein? C'est sûr que c'est comme le centre, puisqu'on regarde la montagne, on regarde le dessus.
Et ça dit toute la nature de Dieu aussi. Finalement, comme dans Ésaïe, Dieu qui dit ce que je désire, je ne sais plus si c'est dans Ésaïe ou si c'est chez un autre prophète de l'Ancien Testament, Dieu dit ce que je désire, c'est pas que si c'est dans Ésaïe, que le méchant meure, mais qu'il se repente. Et si Dieu vraiment donne toutes ses bénédictions aux hommes, quel qu'il soit, ben c'est que toujours il attend finalement que les hommes se tournent vers lui et se donnent de tout leur cœur.
Ézéchiel. Hein.
Dieu laisse en fait sa chance à tout le monde. Parce que nous, des fois, on est tenté de ne plus du tout en laisser aux autres.
Ah, c'est
sous le coup tellement on est déçu et voilà. Blessé. Voilà.
Colère, déception, oui. Fatigue. Dépression, on finit par rejeter. Quelqu'un d'autre ?
5, 16.
Chapitre 5, verset 7. 16.
Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient votre voisin et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux.
Finalement, la gloire doit revenir à Dieu, quoi. C'est ça. Parce que c'est votre lumière, on ne l'a pas inventée. C'est le Christ en nous qui dégage sa lumière. Donc, la gloire doit en revenir à Dieu, oui. Oui. Est-ce que tout le monde a parlé?
Dans le 6. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent pas, ne percent ni ne dérobent.
Ça, c'est versets 19 et 20. Chapitre 6, 19 et 20. Voilà. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un qui veut donner un texte? Sinon, on va arrêter le culte.
Moi, j'en ai encore
un. Le 12, 7.
Chapitre 7.
Oui.
Chapitre 7, verset
12.
Verset 12.
Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Ça, c'est la loi et les prospères. Entrez par la porte étroite, par là, c'est la porte. Spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu
qui les trouvent. Amen.
Amen. Amen. Il y a le verset encore. Bon, il y en a plein. Hein.
Oui, mais vas-y.
7, verset 17.
Chapitre 7, verset 17.
Ainsi, un bon arbre porte de bons fruits, un mauvais arbre produit de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut pas porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre de bons fruits. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Et ça c'est vraiment, pour moi, le truc pour pouvoir analyser quelqu'un même qui parle en disant des choses bonnes. C'est vraiment voir si tout, finalement, est cohérent. Et quand, il n'y a pas longtemps, sur France Info, j'écoutais une émission sur... j'entendais un auteur qui a écrit un livre sur ces fous qui nous ont influencés, quelque part. Et il a parlé de Proust, il a parlé de plein... Enfin, des existentialistes et de
Victor Hugo, tout
de
ça.
De Victor Hugo, de plein d'auteurs qui ont fait vraiment la pensée moderne. Et ils disaient qu'en fait, pour la plupart, ils avaient vraiment des comportements vraiment déviants et qui touchaient à la folie. Et ils donnaient vraiment des exemples concrets dans leur vie. Et là, je me suis dit, mais vraiment, c'est vraiment flagrant. Et à la fois, ces gens-là, on les porte toujours au nu. Et il y a d'autres personnes qui ont porté de beaux fruits, qui ont été cohérents. Et bon, je pense à Martin Luther King et à plein d'autres. Mais... ça, c'est vraiment, c'est le bon scanner, quoi, ce verset-là.
Le scanner.
Quand on fait de bons fruits, ben voilà.
Voilà. Je vais arrêter l'enregistrement. Et merci. Vous voyez à quel point la parole de Dieu ne peut pas nous laisser indifférentes. C'est pas l'homme qui a parlé, là. C'est pas un être humain, un pécheur. C'est Dieu lui-même qui nous appelle à la sainteté. Et en plus... celui qui nous parle, il est la sainteté. Il est sans péché. Il est rempli de l'esprit. Il a l'esprit sans mesure. Donc, Noël, c'est plus qu'un cadeau. C'est la nouvelle création qui commence avec Jésus. Il suffit d'emboîter le pas. Voilà.